Ah, Pomerantsi. Monsieur le ministre, je salue votre délégation de haut niveau. Je vous remercie pour votre présentation très complète et les engagements que vous venez de réaffirmer devant notre comité. Je salue également les parlementaires présents ainsi que la société civile qui, ici, aujourd'hui à Genève, comme au sein de votre pays, conduit une action tout à fait remarquable pour le progrès de l'égalité. Nous attendons beaucoup de ce dialogue. Monsieur l'ambassadeur a donné une tonalité au départ de cette réunion et nous attendons, je le répète, beaucoup de ce dialogue qui entretient une coopération avec un pays qui entretient une coopération historique avec les Nations Unies et notamment dans le cadre du maintien de la paix et au moment surtout où les États ont une responsabilité tout à fait historique dans la mise en œuvre de l'application de la Convention CEDAW dans le fait d'éviter toute forme de régression des droits. Et je rappelle à cet égard que la Convention s'inscrit aussi dans l'agenda 2030 qui exige une accélération de la mise en œuvre de la Convention CEDAW. Précisément, vous avez rappelé de manière très complète les nombreux projets et progrès législatifs engagés. Et nous vous en félicitons, l'adoption du Code rouge en 2019, la loi électorale sur les quotas de 2017, la loi de novembre 2023 sur les violences, la loi dite Cartabia en vigueur depuis 2023 sont autant de réponses utiles qui feront d'ailleurs l'objet de recommandations tout au long de ce dialogue. Mais les mesures prises en vue d'assurer aux femmes la pleine jouissance de leurs droits dans les domaines clés de l'emploi, de la participation au processus de décision, mais aussi, bien sûr, de la représentation politique en général, de l'accès à tous les services de santé, et notamment aux droits sexuels et reproductifs, et la persistance de stéréotypes culturels restent des préoccupations importantes et appellent, de notre point de vue, une réévaluation systémique des droits des femmes. Ma première question vise précisément le statut de la Convention et du protocole facultatif. Au vu notamment de la jurisprudence de la Chambre civile de la Cour de cassation italienne, avec l'arrêt Manduca du 8 avril 2020, qui rappelait l'État italien à sa responsabilité et à son obligation de redevabilité dans la mise en œuvre de la Convention. Et cette décision est en lien avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de 2017, qui a mis aussi en exergue le concept d'inertie fautive dans l'exécution des obligations internationales, mais également cette jurisprudence a été confirmée par la décision du comité CEDAW dans le cadre de l'article 7 du protocole facultatif dans sa décision de juin 2002 sur la portée des stéréotypes culturels dans les décisions de justice. Pouvez-vous indiquer de manière claire les mesures prises pour tenir compte de cette jurisprudence convergente et en particulier la question du droit à un procès équitable et la lutte qui s'impose sur les stéréotypes et la nécessaire formation des juges à la Convention CEDAW. Je voudrais également à cet égard vous demander si la législation de 2021 sur les publicités sexistes a été renforcée. Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle de l'AGCOM qui a été renforcé sur cette question. Pouvez-vous donner des exemples de sanctions précises prises pour combattre les propos sexistes et les discours de haine? La réforme de la justice a été donc mise en œuvre. Nous évoquerons son impact, mais pourriez-vous indiquer quels sont schématiquement les avantages concrets pour les contentieux intéressant les femmes? Sur la définition de la discrimination, les articles 1 et 2 de la Convention établissent une obligation globale à l'égard des femmes en incluant, bien sûr, toutes les formes de discrimination. Nous avons retenu vos projets et surtout vos engagements et vos réalisations sur les minorités, notamment Roms et Sinti, mais de manière plus générale, pouvez-vous confirmer que cette approche des discriminations intersectionnelles est également une centrale et prioritaire dans toutes les mesures, stratégies, plans et bien sûr prises en compte par la justice. J'en viens aux femmes migrantes. C'est un sujet qui n'est pas seulement italien, mais qui touche l'Italie de manière frontale. Et pouvez-vous indiquer Si l'approche genre est renforcée et garantie dans le nouveau système européen asile-immigration établi en décembre 2023, vous me permettrez à cet égard de rappeler que l'Italie, bien sûr, n'a pas toujours bénéficié de la solidarité européenne, mais qu'aujourd'hui, il serait peut-être important de définir une stratégie de long terme sur ces questions, avec bien sûr une intégration de la perspective des femmes qui sont de plus en plus nombreuses. Elles sont presque souvent à égalité dans les grands flux migratoires. Pourriez-vous confirmer votre intention de mettre en place un modèle nouveau sur l'accueil des migrants avec un système d'accompagnement juridique et d'intégration sociale qui, effectivement, permette un meilleur équilibre entre le nécessaire contrôle des flux migratoires, mais en même temps un accueil qui soit beaucoup plus consolidé en termes de droits humains et singulièrement des droits fondamentaux des femmes. Je voudrais terminer cette intervention sur deux points, l'effectivité du droit. Nous notons, et nous l'avions noté lors de notre dernier dialogue, les inégalités vraiment très structurelles entre les régions. Il y a vraiment, entre le Nord et le Sud, entre certaines régions, dont certaines, bien sûr, ont des pouvoirs législatifs très, très importants, des déséquilibres qui sont assez fondamentaux. Et je voudrais savoir comment vous pourriez, de quelle manière le socle législatif commun à l'échelle nationale peut être renforcé sur les droits des femmes. Car il y a de ce point de vue, semble-t-il, et je crois que c'est une réalité, des déséquilibres permanents. Et je termine avec le plan Paix, Femmes et Sécurité. Nous notons qu'effectivement, ce plan est important et l'Italie occupe une place importante sur ce terrain dans le monde. Un nouveau plan est-il à l'ordre du jour pour tenir compte aussi de l'accueil des réfugiés ukrainiens qui ont été très importants dans votre pays? Pouvez-vous indiquer également si l'Italie conduit aujourd'hui des efforts particuliers dans les négociations de paix qui sont engagées au niveau des conflits majeurs que nous connaissons? À cet égard, pourriez-vous donner une indication, une clarification sur les conditions de la ratification, de l'intégration, pardon, du statut de Rome dans les dispositions internes italiennes? Et je termine avec la coopération avec les ONG. Je pense que dans un pays comme le vôtre, qui a une structure régionale, un espace participatif institutionnalisé avec les ONG serait sans doute un appui tout à fait conséquent, surtout pour créer un paradigme culturel nouveau, touchant effectivement les questions clés sur l'empowerment des femmes et leur rôle dans la société italienne. Merci beaucoup.
Muchas gracias, señora Melín. Tiene ahora la palabra la distinguida delegación.